VOA Afrique.
Heureux d'être de nouveau avec vous pour une nouvelle édition de Washington Forum. Jacques Aristide en direct de New York. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur la pré-scrutin présidentielle au Tchad.
Un vote dans le calme, certes, mais l'inquiétude gagne le pays. Les résultats contestés déjà ne seront pas connus avant une dizaine de jours. Le Tchad se dirige-t-il vers une crise post-électorale? Que signifie un éventuel cinquième mandat d'Idriss Déby Itno après 26 ans au pouvoir? Un Tchad instable peut-il affecter la lutte régionale contre le terrorisme, incarné notamment par Boko Haram? Notre décryptage à venir.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum, au programme, analyse, commentaires et reportages sur la présidentielle du 10 avril au Tchad. Près de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes et ils étaient visiblement nombreux à s'y rendre. Mais c'est une longue attente avant de connaître le vainqueur ou de savoir s'il y aura un second tour. Car les résultats provisoires ne sont prévus qu'à partir du 23 avril. 13 candidats ont pris part à cette joute, dont le président sortant, Idriss Déby, donné grand favori.
Le Tchad doit sortir de ces élections avec son unité renforcée. Puisque tout au long de ce processus, nous avons maintenu un dialogue. Même s'il y a eu quelques dérapages au niveau de la campagne.
Idriss Déby qui veut donc être reconduit à la tête du Tchad, ce qui n'est pas au goût de l'opposition qui crie déjà à la fraude et qui croit que les Tchadiens veulent d'un changement. Le principal rival de Déby est leader de l'opposition, Salé Kebzabou.
J'ai entièrement confiance dans le peuple, dans sa résolution de changement. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voyez des colonnes entières d'hommes et de femmes devant les bureaux de vote, c'est justement la preuve de cet engagement, de cet engouement, de cette volonté inébranlable de changement. C'est tout cela, je pense, qui motive les Tchadiens. C'est cela qui nous renforce dans notre conviction que notre pays va enfin se libérer du joug de la terreur.
Le vote s'est déroulé plutôt dans le calme, malgré quelques incidents mineurs, comme à Boutal-Bagar, un quartier à la périphérie d'N'Djamena, où des électeurs n'ont pas pu voter par manque de bulletins.
Depuis 9 heures, on n'arrive même pas à trouver les bulletins pour voter. Depuis 9 heures, il n'y a même pas de bulletins.
Comme ils ont déjà commencé à nous menacer avec les gaz lacrymogènes et avec les armes, vous entendez les tirs maintenant là, et on ne va jamais céder. Tant qu'ils veulent ou non, on décide ensemble de mourir, et ils n'ont qu'à nous tuer comme ils ont l'habitude de le faire. Moi, je me sacrifie.
Des images et des propos que nous a rapporté l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad, Bagassi Koura, qui nous rejoint en direct d'N'Djamena via Skype. Deux autres invités également avec moi sur ce plateau. Souleymane Baldo, directeur du programme Afrique, en fait, au Centre international de justice traditionnelle. Plus maintenant, en fait, hein, vous n'êtes plus là-bas. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Et à Paris, le politologue Germain Hervé Mbia Yebega, chargé du programme gouvernance paix et sécurité à l'Institut Afrique Monde. Bagassi, je suis content que vous ayez pu nous rejoindre ce soir parce que, faut-il le rappeler, les réseaux Internet et mobiles avaient été interrompus au lendemain du vote de dimanche, ce qui a dû fâcher beaucoup de Tchadiens. Ces services ont-ils été rétablis ?
Oui, il faut dire que le service Internet a été interrompu un fois au lendemain, mais au jour même du vote, le dimanche 10 avril, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas aussi le service SMS, hein. Mais Internet est revenu ce mardi, on s'est réveillé, on s'est rendu compte que ça a commencé à fonctionner. Mais pour certains, ils disent toujours qu'ils n'ont pas encore pu retrouver la connexion sur leur, soit sur leur téléphone ou leurs ordinateurs à la maison. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que Internet est revenu, on arrive quand même à communiquer avec le monde, mais pas avec SMS.
Alors, nous savons que le climat social est déjà très tendu dans le pays, avec une grève qui continue dans les administrations, écoles et universités. Il y a eu la vague de protestations provoquée par le viol collectif d'une jeune fille par les fils d'un ministre et de généraux. Des leaders de la société civile ont été condamnés pour avoir tenu des manifestations en faveur d'une alternance démocratique. La tension politique, elle, est également très palpable. Vous l'avez vu, le chef de file de l'opposition, Salé Kebzabo, a accusé le régime de bourrage d'urnes et de vente de cartes d'électeurs. Germain Hervé, la question est directe. Une crise post-électorale se profile-t-elle à l'horizon ?
Ben alors, bonsoir déjà. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais insister sur le fait que la problématique d'une éventuelle crise post-électorale au Tchad ne peut s'inscrire dans la perspective de toute l'historicité du Tchad, qui met en présence en fait une exigence fondamentale de construction de l'État, la légitimité même du régime de M. Déby, et puis les nécessités de la construction du pacte social et républicain. Voilà.
Alors, n'empêche que l'Union africaine a conclu que les électeurs ont pu choisir librement leurs dirigeants malgré quelques anomalies dans le déroulement du vote. Souleymane Balde, de l'opposition, est-elle en train de faire preuve peut-être de démagogie en tenant des discours à même de pouvoir et enflammer le pays ?
Son discours, bien sûr, est preuve de manque de confiance qui existe dans la classe politique. Il faut rappeler à l'opposition, à tous les acteurs politiques d'ailleurs, qu'il faut vraiment ressortir aux voies légales pour toute contestation, toute question sur, disons, la façon dont les élections ont eu lieu. Et donc, je ne m'attends pas vraiment à des manifestations très violentes à ce propos, parce qu'il y a aussi un recours possible pour le faire.
Voilà. Alors, à propos de la biométrie, hein, pour éviter les fraudes, il faut dire que le camp du président Déby a accepté le recensement biométrique, mais s'est opposé au déploiement des kits permettant de lire les cartes biométriques au moment du vote, si bien que la biométrie n'a pas vraiment joué son rôle dans cette présidentielle. Bagassé, vous qui parvenez à tâter le pouls des Tchadiens 4 jours après le scrutin, quel est le sentiment général là, dans le pays ? Y a-t-il vraiment une certaine inquiétude quant à l'avenir du pays ?
Oui, je pense que beaucoup de gens se posent des questions. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a ce paradoxe tchadien tout autour ici. Hein, les pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, ils ont fait des élections et en quelques jours, on a eu les résultats. Les Tchadiens ont le sentiment que leur pays a son propre rythme à part, un pays qui refuse de suivre le rythme des autres pays. Et donc, il va falloir attendre 2 semaines. 2 semaines, c'est ce qui est dans le code électoral ici. Cette attente, bien sûr, fait monter beaucoup d'inquiétudes. Les gens se posent des questions. Quels seront les résultats ? Est-ce qu'ils seront acceptés ? Est-ce que les résultats, parce que les gens n'ont aucune idée comment le décompte se fait en ce moment. Ils ont juste voté. Ils attendent qu'un jour on leur dise voici le résultat. Et c'est un processus tellement enfermé, pas vraiment de transparence, en dehors de ceux qui sont au niveau de la CENI qui peuvent peut-être savoir comment ça évolue. Mais les médias, les citoyens ordinaires, personne n'a une idée. Et c'est bien sûr des interrogations un peu partout que va devenir notre pays si les choses ne sont pas acceptées un jour par l'un ou l'autre parti, l'un ou l'autre camp.
Manque de transparence, en tout cas pour beaucoup d'observateurs, un cinquième mandat d'Idriss Déby est inévitable, même dans l'éventualité d'un second tour. Germain Hervé, l'opposition a-t-elle été trop longtemps fragmentée, donc incapable d'offrir aux Tchadiens une alternative fiable et viable ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la configuration du champ politique au Tchad met en présence un régime politico-militaire en face d'une opposition passablement inspirée et puis des éléments d'une société citoyenne qui progressivement se constitue. Et c'est fondamental. C'est cela qui permet de comprendre en fait les projections des uns et des autres, les méthodes qu'ils mobilisent et puis les ressources qu'ils peuvent avoir pour atteindre les objectifs qu'ils sont fixés. Donc, fondamentalement, il y a une disproportion de moyens. Le régime de M. Déby dispose de tout l'appareil de l'État, de tous les moyens économiques et financiers, des appareils sécuritaires, et l'opposition qui en subit les coups de boutoir, en fait, n'a pas les moyens et n'a pas les moyens de pouvoir se projeter décemment pour faire face à cette machine. Et la société civile qui est prise en otage manque, elle, également de perspective. Enfin, je veux dire, nous sommes dans un contexte, en fait, où tout est embryonnaire et la lutte sera très longue. Il faut bien rappeler aux uns et aux autres, notamment à l'opposition et à la société citoyenne, que l'État est une preuve de force et que rien ne leur sera donné. Il leur faudra se battre avec des moyens politiques et citoyens pour parvenir à faire basculer les choses dans le sens qui est le plus favorable pour tout le monde.
Mais encore une fois, comme le dit un partisan de Déby, depuis l'indépendance, aucun chef d'État n'a fait autant de réalisations. Grâce au pétrole exploité depuis 2003, son gouvernement a construit des routes, des hôpitaux, des écoles, six universités, quintuplé le nombre de fonctionnaires et leur salaire a été doublé. Et la question, Souleymane Baldeux, alors ce président mérite-t-il finalement un cinquième mandat ou 26 ans finalement, c'est trop quoi, il faut partir.
C'est une tendance générale en Afrique, président sa vie. N'est-ce pas? On change la constitution pour ôter la limitation de mandat. Et 26 ans, c'est trop pour n'importe quel président et pas seulement pour le président tchadien. Au Tchad, ce n'est pas la question de réalisation concrète que la présidence a fait jusqu'à présent. C'est le manque de distribution équitable entre les différentes régions et entre les différents groupes de population tchadien. Ce qui fait qu'il y a un grand taux de chômage parmi les jeunes, ce qui explique la force de cette contestation sociale qui se joue dans le pays. Et donc, la richesse, maintenant, il est en train de se diminuer à cause de la baisse de pétrole sur le marché international. Et le Tchad, maintenant, doit vraiment faire attention, réduire les dépenses publiques sur le maintien, disons, de l'autorité politique. On sait qu'il y a eu des concessions faites aux uns et aux autres pour obtenir leur loyauté politique. Il faut en finir et focaliser sur le développement réel du Tchad.
– Et justement, à propos de ces universités, les bâtiments sont là, mais ces universités ne sont pas vraiment opérationnelles. Donc, c'est vraiment une autre paire de manches. Alors, qu'en pensent nos Facebookers de leurs nombreux commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique? Clément Djirangay, le constat d'une maturité politique est réelle, malgré le grand nombre de Tchadiens analphabètes. À mon avis, ce mandat pour Déby serait un de trop pour la simple raison qu'après 26 ans, il n'aura vraiment plus rien d'autre à prouver, si ce n'est un record de longévité au pouvoir. Hafiz Hassan d'N'Djamena, le peuple a compris le prix de la paix et la stabilité. Toute la classe politique tchadienne est prête à accepter des résultats, y compris le président Déby. Nous l'avions prouvé au moment des campagnes électorales et le jour des élections. Voilà pour ces commentaires. D'autres tout à l'heure, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette coupe.
Bienvenue à bord.
Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Merci de nous rester fidèles. Jacques Aristide de retour avec vous au menu de Washington Forum. L'après-scrutin présidentiel au Tchad. Le Tchad qui joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, triste anniversaire en ce jeudi 14 avril, car cela fait 2 ans, jour pour jour, que près de 300 filles de l'école de Chibok dans le nord du Nigeria ont été enlevées par Boko Haram. Parmi elles, 57 ont été libérées, mais à ce jour, aucune nouvelle quant aux 19 autres. Au Tchad, dans sa région du lac, l'état d'urgence a été décrété depuis plusieurs mois, mais en raison des attaques meurtrières du groupe islamiste nigérian Boko Haram, les habitants ont mis en place des comités de vigilance. C'est le cas, par exemple, dans la ville de Bagassola, où s'est rendu Bagassi Koura.
Au marché hebdomadaire de Bagassola, c'est la grande affluence. Pourtant, il y a seulement 5 mois, des kamikazes ont frappé ici.
Il était 15h30, quand le premier détonnement s'est fait entendre.
Bagassola n'a jamais eu à l'idée un jour qu'il allait être attaqué par Boko Haram.
C'est ici que le 10 octobre 2015, qu'il y a eu 3 explosions kamikazes simultanées. Ici, il y avait un grand hangar et voici ce qu'il en reste.
À ce jour, c'est l'attaque la plus meurtrière de Boko Haram sur le sol tchadien.
Nous avions eu sur le coup 43 morts, nets, y compris les kamikazes. 43 morts, 58 blessés.
Depuis, des groupes d'autodéfense contrôlent l'accès du marché.
On fuit tout le monde. Si ton frère même, s'il est dehors, tu vas le fuir. On commence à 6h30 à 18h. On a fait 6 mois ou 7 mois, on est ici. Matin, soir, on est là. Mais on a rien trouvé, mais on a soutenu, on a fait défendre notre pays, seulement notre village.
Ils sont devenus très vigilants, comme indique leur nom. Et ce sont ceux-là, aux côtés de nos forces de défense, ont fait, à l'heure où je vous parle, que nous espérions quand même que la sécurité est en train de revenir.
La région du lac est hautement militarisée face à la menace de Boko Haram. L'armée continue son redéploiement dans cette partie du Tchad, placée sous état d'urgence depuis novembre 2015.
Voilà, des comités de vigilance pour éviter un autre chibok, parce que évidemment il y a 219 filles qui demeurent introuvables. Voilà, Bagassi qui est toujours avec nous en direct de la capitale tchadienne. Nous retrouvons également nos deux autres invités, le politologue Germain Hervé Mbia Yebega de l'Institut Afrique Monde à Paris et Souleymane Baldou, analyste avec moi sur ce plateau. Le Tchad est donc devenu un allié important dans la guerre contre des groupes comme Boko Haram. Souleymane Baldou, la lutte, en fait, un Tchad instable, parce qu'on parle évidemment de politique, peut-il affecter la lutte régionale contre le terrorisme ?
Le Tchad s'est montré très efficace dans la mesure où il a apporté, disons, une expertise dans ce type de, disons, de guérilla, de contre-terrorisme, ouais, et de guerre de désert dans le nord du Mali contre Acmi, Ansaruddin et autres groupes violents, extrémistes. Et donc, il affirme un certain rôle régional, mais ça multiplie le risque pour le Tchad, parce qu'on l'a vu avec Boko Haram qui frappe avec des attentats terroristes dans le pays. On l'a vu dans la région du lac de Tchad et ailleurs dans le pays. Il y a d'autres risques qui vont arriver, disons, dont on parlera bientôt, oui, mais dans le rôle de terrorisme, il faut bien qu'il y ait une alliance régionale plutôt que de les laisser au Tchad et au Niger, comme cela a été le cas jusqu'à présent, d'avoir le fardeau dans la lutte contre, oui, le terrorisme.
– Une armée tchadienne qui est considérée peut-être comme la plus forte, la plus puissante en Afrique francophone en ce moment, n'est-ce pas ?–
C'est les forces spéciales du Tchad, mais les capacités d'armée, on peut guère dire que c'est la plus forte, disons, en Afrique. Ouais. Et il faut compter aussi avec beaucoup d'armées qui sont beaucoup plus structurées, avec des moyens autrement plus importants, comme l'armée égyptienne, algérienne ou sud-africaine, et ainsi de suite. Et donc, le Tchad, dans la disons le domaine de contre-terrorisme, et ils se montrent très efficaces. Ça ne fait pas, disons, une capacité entière militaire.
Et d'ailleurs, il faut le dire, depuis janvier, Déby est président en exercice de l'Union africaine. Germain Hervé, son implication dans le combat contre le djihadisme en Afrique permet-elle à Déby d'avoir le soutien des pays occidentaux, peut-être la France en tête, n'est-ce pas?
Alors, ce que je dois dire a priori, c'est que l'ensemble des pays en Afrique touchés par le terrorisme, en fait, sont face à une exigence double, qui est celle de l'urgence sécuritaire et du développement. Bon, alors, le Tchad est se situe dans un contexte tout à fait particulier. Il est cerné par des pays crisogènes que sont le Soudan, la RCA, le Nigeria, une partie de la frontière du Niger et la Libye qui est investie en partie par l'État islamique. Donc non, le Tchad n'a pas d'autre choix que de s'engager. De s'engager de concert avec les États de la sous-région, comme c'est le cas en ce moment, en fait, dans le cadre de la MINUSCA, en RCA, comme c'est le cas également dans le cadre de la force mixte multinationale créée par la Commission du bassin.
Peut-être pour revenir sur ce que vous venez de dire, pourquoi le Tchad n'a pas autre choix que de participer à cette lutte ?
Mais parce qu'aucun pays en Afrique n'a les moyens de s'assurer lui-même la sécurité dans ses frontières. Aucun. Donc la nécessité, en fait, d'une interaction sous-régionale. Et bon, moi, je vous dis, le Cameroun a fait appel à bénéficier du savoir-faire des troupes tchadiennes pour bouter hors de son territoire, en fait, les troupes de Boko Haram qui s'y projetaient. Donc, aucun des pays n'a d'autre choix que de s'engager dans une dynamique en fait sous-régionale qui est en amorce et qui doit être consolidée. Voilà. Que ce soit dans le cadre du G5 dont fait partie du Sahel, du groupe Sahel 5 dont fait partie le Tchad, ou de la commission du bassin du lac Tchad, voire même de la CEAC, ouais. Tous les pays de la sous-région n'ont pas d'autre choix que de mutualiser leur savoir-faire et dans la perspective en fait de vaincre cette hydre du terrorisme. Et le Tchad fait partie abrite en fait l'état-major de la force Barkhane, qui est donc le contingent français en charge de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, tout comme d'ailleurs l'état-major de commandement de la force mixte multinationale. Donc ça n'est pas une question qui est liée plus à la personnalité de M. Déby, à la nécessité pour l'État tchadien de
On va, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Rapidement, j'aurais aimé demander à Bagassi, je m'excuse de vous interrompre. Oui. Bagassi, cette lutte contre le terrorisme domine-t-elle le débat politique dans le pays, rapidement ?
Non, pas vraiment, non. C'est une question, les questions militaires au Tchad ici sont très sensibles et gérées directement par le régime Déby. Même l'Assemblée nationale ici n'a pas pu avoir un débat franc sur la question de la lutte contre le terrorisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Tchad est un pays cerné, c'est vrai, on parle de Boko Haram, mais il y a d'un côté aussi le Soudan et puis il y a la Libye qui fait des pays qui font frontière avec le Tchad, qui ont tous des problèmes de sécurité. Et donc, c'est une question qui est gérée depuis le haut niveau. Il n'y a pas un débat à ce sujet ici.
Vous partagez évidemment...
Certainement, je partage cette analyse. Ce n'est pas par hasard qu'il y a deux jours avant le scrutin, il y a eu l'annonce d'un nouvel front de lutte armée contre le régime de président Déby. C'était justement
Voilà, on va continuer. Il y a un autre reportage, mais deux derniers commentaires Facebook. Abdraman Saleh, Youssouf Nialimi, Denjamena, le peuple tchadien dans sa majorité, qui non seulement ne bénéficie pas des revenus pétroliers qui sont zagawatisés, reçoit les salaires après des cris et des grèves. Entendez par Zagawa, l'ethnie à laquelle appartient Déby. Et Christian Djerabé, également de la capitale tchadienne. N'oublions pas qu'une partie de la population est pour ce mandat. Et voilà, on les appelle les réfugiés de Boko Haram. Depuis 2 ans, plusieurs milliers de gens fuyant les exactions du groupe nigérian ont été installés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la région du lac au Tchad. Bagassi Koura les a rencontrés. Son récit lu par Morgane Guériec.
Le camp de Dar es Salaam à Bagassola accueille à lui tout seul quelques 8000 réfugiés depuis 2015. Des hommes, des femmes et des enfants, souvent non accompagnés, qui ont tous fui les exactions de Boko Haram au Niger et au Nigeria.
Ils ont tiré sur nous avec des bazookas, des kalachnikovs, ils ont brûlé toutes nos cases.
Sambo Abdoulaye, père de 7 enfants, à Fibaga, une ville du nord du Nigeria, il y a 5 mois.
Quand on s'est passé au Baga, on a venu au Mali. On a quitté au Mali, on a rentré à Karanga. Karanga, ils sont là tués 118 militaires. Avant de se rentrer dans la ville, ils sont brûlés tout. le civil soit c'est comme ça, soit en train de le tirer. C'est là qu'on est rentré sur le lot. Il y a les autres qui sont là trouvés, il y a les autres qui ne sont pas trouvés.
Fatima Moussa, âgée de 30 ans, est mère de 3 enfants. Elle affirme être sans nouvelles de son mari depuis un an.
Je n'ai pas de ses nouvelles. Chacun a pris sa route. Je ne sais pas où il est parti. J'ai demandé à ceux qui sont restés au pays, mais personne ne connaît sa position. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est en vie? Je ne sais pas.
Loin de la menace de Boko Haram, dans le camp de Dar es Salaam, ces rescapés se disent impressionnés par l'ampleur du groupe extrémiste.
Le Boko Haram, là, on ne peut pas parler de Boko Haram. Le Boko Haram, toutes les façons des hommes que tu connais sont des là. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des vieux.
À 20 km de Dar es Salaam, le HCR a installé une centaine de ces réfugiés au bord du lac, dans le village de Tagal. Des pêcheurs nigérians qui ont repris leur activité habituelle en espérant un jour retourner chez eux.
Voilà les réfugiés de Boko Haram dans la région du lac au Tchad. Un petit commentaire là-dessus, Souleymane Baldou.
Ça montre bien la dimension régionale dans la question de la stabilité politique au Tchad. Il y a des réfugiés, disons, de Boko Haram dans la région du lac, mais aussi des réfugiés de Soleka, dans ce pays. À l'est, il y a les réfugiés de Darfour, qui sont du Soudan. Et donc, la question de la sécurité régionale est une question importante. Et le Tchad doit vraiment prêter une priorité absolue à cette question-là, parce qu'il va de son stabilité et de la paix dans le pays aussi. Or, le Tchad est un acteur actif dans tous ces pays, parfois, disons, en agent de déstabilisation, comme cela a été le cas au début de l'intervention de Seleka en Afrique centrale. Et par la suite, de stabilisation, dans la mesure où il a cherché à faire la médiation et à faire, disons, l'opération de paix en Afrique centrale.
Vous avez entendu tout à l'heure un de nos Facebookers aborder cet aspect ethnicité. Est-ce que ça devient un gros problème au Tchad?
Bien sûr, il y a beaucoup de groupes qui veulent avoir une participation, disons, juste au pouvoir et dans la richesse nationale. Et donc, une partie de ces protestations sociales, c'est parce qu'il y a des gens qui se sentent marginalisés dans leur propre pays. Ils disent tout est gardé par un clan ethnique qui est celui du président. Et donc, il faut bien aussi faire la part des choses de ce côté-là.
Voilà, Bagassi, on vient de commenter votre reportage. Mais moi, ce que je voulais vous demander, Bagassi Koura, vous êtes de retour avec nous. Nous savons que des médias internationaux, télévisés notamment, ont du mal à obtenir le feu vert des autorités pour couvrir la préélection. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est votre situation?
Eh bien, on avait des accréditations, mais au lendemain donc, du scrutin, c'est-à-dire lundi, des agents de l'État sont passés dans tous les hôtels où se trouvaient les journalistes de la presse internationale, parce qu'ils ont nos adresses, bien sûr. Mais ils ont laissé cette note. Et qu'est-ce qu'elle dit? Bien, les élections sont finies. Si vous aviez une accréditation, même s'il restait encore plusieurs jours, il faudra renouveler parce que les autres jours ne comptent plus. Il faut renouveler et faire une nouvelle demande et dire exactement ce que vous comptez faire comme reportage. Et c'est ce qu'on a fait immédiatement. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une réponse claire. Mais au niveau du Haut Conseil de la communication ici, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec cette décision du ministère de la Communication. Et là-bas, on conseille aux journalistes internationaux de continuer à travailler, d'ignorer cette décision du ministère de la Communication.
Oui. Germain Hervé, deux mots pour terminer malheureusement. Alors après ce scrutin, le pays en sortira-t-il gagnant ou perdant ?
Je pense qu'il y a deux choses à savoir. La première, c'est que voilà, l'État au Tchad se construit, donc l'action de l'État et de la citoyenneté. De deux, la capacité des autorités tchadiennes à pouvoir articuler en fait le local et le régional déterminera en fait leur gestion.
Oui.
Leur gestion.
On n'a qu'une petite poignée de secondes.
Des contraintes sécuritaires et du développement, voilà.
Ouais. Ok, bon, ben vraiment désolé, le temps fait défaut. C'est ici que nous allons clore ce Washington Forum, réalisé avec les équipes de Washington et New York. Merci à nos invités, l'analyste Souleymane Baldou, le politologue Germain Hervé Mbiya Yebega et notre envoyé spécial au Tchad. Merci, c'était Jacques Aristide à New York. À très bientôt.